RFI, grand reportage. Laurence Adou.
77 ans au pouvoir depuis 1999. Abdelaziz Bouteflika vient d'être élu pour un quatrième mandat. Victime d'un accident vasculaire cérébral en avril dernier, c'est un chef d'État malade et très affaibli qui vient d'être reconduit pour 5 ans. Bouteflika et les militaires, Bouteflika et l'Afrique, Bouteflika et les femmes. Portrait d'un homme qui toute sa vie a cherché à tisser des relations avec les grands de ce monde et à prendre sa revanche sur les militaires. Grand reportage signé Marie-Pierre Olfan. Marie-Pierre que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Si vous voulez me liquider, liquidez-moi. 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 Mais je vous recommanderai jusqu'à mon dernier souffle. Je vous recommanderai jusqu'à mon dernier souffle de veiller sur l'Algérie.
Abdelaziz Bouteflika, un tribun, en pleine campagne présidentielle en Kabylie, c'était en 2004. « Je suis là pour l'Algérie, je ne suis pas là pour un fauteuil », a-t-il toute sa vie répété, comme pour renforcer l'image d'un homme qui se sacrifie pour son pays. Un homme qui, au contraire, a toujours cherché le pouvoir, selon ses détracteurs. Abdelaziz Bouteflika naît le 2 mars 1937. Sa biographie officielle ne précise pas à quel endroit, peut-être parce que c'est au Maroc, à Oujda, qu'il voit le jour. Sa famille est originaire de l'ouest algérien, de la région de Tlemcen, où on le considère comme un fils du pays. Abdelwahab Bahli, cadre du FLN.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'il habitait à Oujda, toute proche de l'Algérie. Donc il venait pendant les vacances. Il venait les vacances d'hiver, les vacances de printemps. Et puis l'été. L'été, il venait là, les 3 mois de vacances. C'est le fils de Tlemcen. Sa famille, elle est de Tlemcen. Sa mère, ses aïeuls. Ils sont là, ils sont enracinés à Tlemcen. Moi, je crois qu'il a un lien très charnel avec Tlemcen. Le plus beau cadeau que le président a fait pour Tlemcen, c'est l'année culturelle islamique. On a eu droit à beaucoup de réalisations. Et je ne sais pas si vous aurez l'occasion de voir le palais qui a été restauré, le palais des Ianites. C'est Grenade, c'est l'Alhambra.
À l'âge de 19 ans, Abdelaziz Bouteflika rejoint l'armée de libération nationale, puis le FLN. À l'indépendance, il devient ministre de la jeunesse avant d'être propulsé ministre des Affaires étrangères. Il est alors le plus jeune à ce poste dans le monde. En 1974, il est élu à l'unanimité président de l'Assemblée générale de l'ONU et obtient la mise au ban de l'Afrique du Sud, comme il l'explique lui-même dans une interview.
En tant que président de l'Assemblée générale des Nations Unies, je fais un ruling, je me suis exposé à la sanction de l'Assemblée générale qui pouvait voter pour ou contre moi, et donc me disqualifier en tant que président ou ne pas me disqualifier. Elle m'a soutenu, et c'est comme ça que nous avons chassé la délégation de l'Afrique du Sud raciste en 1974, et l'Afrique du Sud n'est revenue aux Nations Unies qu'avec Mandela à la tête du pays.
Le Caire, Kaboul, New York, Kuala Lumpur. Pendant 16 ans, l'homme voyage partout. Certains le considèrent comme un surdoué de la politique étrangère, mais il se fait aussi très vite une réputation de noceur. Dans ses mémoires, l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing se souvient du ministre Bouteflika et de ses frasques parfois embarrassantes.
Il lui arrive de venir faire des visites incognito à Paris, dont nous ne sommes pas prévenus. Il s'enferme dans l'appartement d'un grand hôtel, où se succèdent de charmantes visites. On affirme qu'il porte une perruque.
Après la mort de son mentor Boumediene le 27 décembre 1978, Abdelaziz Bouteflika est écarté de la scène politique et accusé de détournement de fonds, sans qu'il n'y ait jamais aucun procès. Il se met au vert plusieurs années. En 1994, il est approché pour revenir aux commandes en pleine décennie noire. Ali Haroun, ancien dirigeant de la Fédération de France du FLN, raconte l'épisode.
Je l'ai rencontré à l'hôtel Horaci, où se tenait un congrès des Moudjahidines, et il m'a dit, qu'est-ce que t'en penses? On me propose de me présenter à la conférence du consensus national, puisqu'il n'était pas question de faire des élections présidentielles, c'était le terrorisme partout. Donc lui était pressenti, il m'a demandé mon point de vue. Je lui ai dit, mon cher ami, chez nous, c'est un secret de polichinelle, il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir apparent et le pouvoir réel. Si on te donne les attributs du pouvoir apparent, tu refuses. Si on te donne les attributs du pouvoir réel, alors là, tu réfléchis. tu acceptes ou tu refuses.
Pourquoi, alors qu'il était à l'écart, a-t-on fait appel à lui ? Pourquoi le projet a-t-il tourné court ? Difficile de répondre avec certitude. Ce n'est finalement qu'en 1999 qu'il fait son grand retour. Il est alors officiellement présenté comme le candidat du consensus. Chafik Mesbah, ex-officier de renseignement, auteur du livre « Problématique Algérie ».
Il est certain que c'est l'armée qui l'a choisi. C'est les chefs militaires de l'époque qui l'ont coopté. Et l'élection n'a été, qu'un processus de formalisation de la cooptation. Ça, c'est clair.
Quel atout il avait à l'époque aux yeux de l'armée ?
Aux yeux de l'armée, il y avait surtout la capacité qui lui était prêtée de redorer le blason de l'Algérie sur le plan international.
Abdelaziz Bouteflika mène en 1999 une campagne effrénée. Il séduit ceux qui retrouvent en lui Boumédienne. Mais certains, comme le journaliste Faisal Metaoui qui a suivi sa campagne, se souviennent aussi de son arrogance.
Dans son discours, on percevait une volonté de prendre une revanche. J'avais l'impression à l'époque qu'il n'avait pas accepté le fait que les Algériens ne le choisissent pas après la mort de Boumédienne, la fin de 78. Donc il avait gardé cette rancune et après, il a commencé dans tous ses discours à critiquer l'époque Chadli. Il avait assimilé l'époque Chadli avec beaucoup d'ironie au kiwi et aux bananes, parce que c'était une période qui était marquée par l'importation de fruits exotiques, etc. Et il n'avait pas cessé aussi d'insulter à demi-mot les Algériens, les traitant de fainéants, les traitant d'assistés. Donc il y avait de l'arrogance dans son discours.
Il ne faisait pas campagne en essayant de séduire la population.
Non, il n'était pas dans la séduction, il était presque convaincu qu'il sera président, il parlait presque en président.
Craignant des fraudes, les six candidats qui devaient lui faire face se retirent au dernier moment. Abdelaziz Bouteflika ira donc seul au scrutin. Il tient à être bien élu et le fait savoir aux Algériens.
Si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Je ne suis pas un chercheur de pouvoir, pas plus que quelqu'un qui est atteint de messianisme politique. Je sais que mon pays a besoin de quelqu'un, mais je ne m'imposerai pas au peuple.
Officiellement, le nouveau président est crédité de 73,8% des voix. Il voulait plus que les 61% de Lyamin Zeroual, son prédécesseur, c'est chose faite. À peine installé dans son fauteuil, il donne le ton de son premier mandat. Ali Haroun.
En arrivant, il a bien dit, je ne serai pas un trois quarts de président. Ça, il l'a dit. Ça s'adressait à qui ? Ça s'adressait à l'armée. C'est clair. Il ne voulait pas partager son pouvoir avec celui de l'armée. Ça, c'est clair. Il rejoint absolument ce qu'avait dit longtemps auparavant un grand monsieur qui s'appelle Aben Hamdan. Primauté du politique sur le militaire.
Durant son premier mandat, Abdelaziz Bouteflika est accueilli en sauveur. Il se taille très vite des habits de faiseur de paix et promet de s'occuper des repentis.
Je suis absolument décidé à faire la paix, quoi qu'il m'en coûte. Je n'ai pas l'intention de refaire le monde. Je ne le referai pas, combien même je le voudrais. Une décennie tragique a laissé trop de plaies et de cicatrices dans ce pays pour croire qu'en un tour de main, on peut revenir 10 ans en arrière. Par contre, il y a des situations qui sont très concrètes. Il y a des gens qui sont dans des maquis. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Alors là, de par les pouvoirs constitutionnels que j'ai, il semble que je peux faire quelque chose. Il faut d'autant plus faire quelque chose que les uns me disent qu'ils sont fatigués, ils n'ont pas commis de crime de sang, ils n'ont pas commis de viol, ils n'ont pas déposé d'explosifs. Et ils vont rentrer chez eux. Eh bien, je prends sur moi d'expliquer à l'opinion publique nationale que, en fin de compte, bien fort est celui qui me dirait « il ne s'est jamais trompé dans la vie ». Donc je les ferai rentrer chez eux.
La loi sur la concorde civile est adoptée en 1999. Elle sera suivie en 2005 par la charte sur la paix et la réconciliation nationale. Plus de 6000 islamistes déposent les armes et reviennent à la vie civile. Les modalités ont été discutées longuement entre Abdelaziz Bouteflika et les militaires. C'est ce que rappelle Adlène Mehdi, rédacteur en chef du journal El Watan Weekend.
En 2005, la réconciliation est un texte très important parce qu'il a été écrit à quatre mains entre les militaires et Bouteflika. Donc c'est pas vraiment son projet à lui, parce que lui, il voulait aller plus loin. Dans ses casiers à lui, il y avait l'amnistie générale, par exemple. Et les militaires, ils ont dit, pas question, c'est impossible, si on applique l'amnistie générale, on va faire éclater cette société. Il y avait une tentation de remettre un peu les gens du fils sur la scène politique pour essayer de les réintégrer et d'assécher comme ça toute tendance insurrectionnelle. Et les militaires, ils ont dit pas question. Donc il y a eu une discussion entre les militaires et Bouteflika autour de ça. Et si on lit très bien la réconciliation nationale, on voit tous les points de tension entre les deux.
En 2004, Abdelaziz Bouteflika est réélu avec 85% des voix et s'attelle très vite à réformer la Constitution pour briguer un troisième mandat. Mohamed Benchikou, auteur du livre Bouteflika, une imposture algérienne.
Il faut savoir que la Constitution de 1996 était un acquis exceptionnel du peuple algérien qui a été obtenu en 1996 par le président Sarwal, qui a fait de l'Algérie le seul pays arabe à limiter le nombre de mandats à deux, en éliminant l'article 74 qui limitait le nombre de mandats présidentiels. Bouteflika nous a alignés sur les dictatures arabes et nous connaissons les problèmes des dictatures arabes et des pays sous-développés.
Le troisième mandat d'Abdelaziz Bouteflika est validé en 2009. Mais depuis 2005, l'homme est malade, plusieurs fois hospitalisé. Ses apparitions sont réduites à des sorties protocolaires. Son accident vasculaire cérébral d'avril 2013 marque la fin de ses apparitions publiques et suscite encore plus d'interrogations sur sa capacité à gouverner. Sidi Mohamed Ngadi, chef du département d'histoire de l'université de Tlemcen.
Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de gens qui puissent dire quelque chose de négatif sur le premier mandat du président Bouteflika. Il a toujours été considéré comme étant le sauveur d'une Algérie qui était en phase d'une dérive très importante. Le deuxième mandat, presque de la même manière, mais le troisième mandat avec la maladie du président, les gens commençaient à penser qu'est-ce qui se passe en réalité ? Est-ce que c'est lui qui dirige ou c'est d'autres bonhommes qui dirigent ?
En 2011, l'Algérie est un des rares pays de la région à ne pas être touché par le printemps arabe. Pour tuer la contestation dans l'œuf, Abdelaziz Bouteflika promet des réformes constitutionnelles. En 2012, il prononce à Sétif un discours qui sonne comme un adieu. Ma génération est arrivée à son terme, dit-il. Mais ce n'était finalement qu'un faux départ. L'homme décide de briguer un quatrième mandat. A-t-il été poussé par son entourage et en particulier par son frère, Saïd, comme certains le disent ? Le clan Bouteflika, sa famille, tout le monde en parle, sans savoir vraiment ce qui se trame à la présidence. Ce que personne ne conteste, c'est le poids qu'a eu la mère d'Abdelaziz Bouteflika. Au palais d'El Mouradia, il n'y a d'ailleurs jamais eu vraiment de première dame. Mohamed Benchikou.
Bouteflika a beaucoup souffert de l'emprise de sa mère, qui lui a interdit de se marier.
On a parlé d'un mariage dans les années 90.
Et il s'est marié à son insu, à l'insu de sa mère. Et en prenant le soin de prendre une femme de la région, de Tlemcen, d'une grande famille, etc. Il a mis sa mère devant le fait accompli, mais sa mère a obtenu gain de cause et il n'a jamais vécu en ménage. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert en tant qu'homme et que c'est un homme qui a vécu sur ce plan-là d'une manière très controversée.
Est-ce pour plaire à sa mère qu'Abdelaziz Bouteflika cherchera toute sa vie à fréquenter les puissants ? Il a toujours été en quête de plus-value politique, explique Mohamed Benchikou.
Vous savez que c'est quelqu'un qui est fasciné par la France, par l'Amérique, qui n'est jamais allé en Afrique, mais qui a ni dans le monde arabe, à l'exception des pays du Golfe qui sont ses alliés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne gouverne pas, mais qui exerce le pouvoir.
Pourquoi n'a-t-il jamais effectué de visite en Afrique ?
Parce que l'Afrique n'est pas porteuse de plus-value politique. Lui, il cherche le soutien des grands. Il n'a que faire des petits.
Si pour certains, Abdelaziz Bouteflika a toute sa vie cherché à prendre sa revanche sur les militaires qui ne l'avaient pas choisi pour succéder à Boumediene, pour d'autres, il reste encore très lié à ce qu'on appelle le système. Adeline Mehdi.
De manière très mécanique, Bouteflika dépend de l'armée et des services secrets. Il est là par la grâce des appareils. Avant, le système était construit à ce que les militaires soient corrompus dans leur coin et les civils soient corrompus de leur coin. Et après, quand les crises éclatent, on règle nos affaires en sortant des dossiers les uns contre les autres. Il y a eu beaucoup de cas comme ça durant ces 30 dernières années. Le problème depuis que Bouteflika est là, c'est que les militaires et les civils volent ensemble. Et donc, les dossiers de corruption piègent les deux systèmes à la fois. Il y a un équilibre de la terreur entre les deux qui maintient ce statu quo qui a débouché sur l'incroyable et humiliante présentation du quatrième mandat.
Que se passera-t-il après sa réélection? C'est la question que beaucoup se posent aujourd'hui avec inquiétude. Abdelaziz Bouteflika, l'histoire d'une revanche. Un grand reportage de Marie-Pierre Olfan, réalisation Marc Minatel.
Marie-Pierre Olfan, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous signez ce portrait d'Abdelaziz Bouteflika. Vous étiez à Alger la semaine dernière pour suivre l'élection présidentielle et vous avez vu le président Bouteflika qu'il n'était plus apparu en public depuis son accident vasculaire cérébral il y a un an.
Effectivement, jusque-là, les seules images du président étaient celles filmées par la télévision nationale quand il recevait des invités de marque. Ce 17 avril, c'était donc sa première sortie depuis plus d'un an, sortie qui a confirmé que le président ne pouvait pas marcher ou très difficilement, puisque c'est sur un fauteuil roulant qu'il est allé voter. On l'a vu sourire, saluer les journalistes de la main, mais les yeux hagards aussi. Il a voté en restant assis dans son fauteuil et uniquement grâce à l'assistance de ses proches. Une image forte qui n'a pas manqué de susciter d'ailleurs des commentaires dans la presse et dans la classe politique, commentaires généralement sévères. Pour ne citer qu'un exemple, le secrétaire national du RCD, un parti qui appelait au boycott, a parlé d'une mise en scène profondément triste et pathétique.
Alors Marie-Pierre, justement, est-ce qu'on sait comment va Abdelaziz Bouteflika ?
Et écoutez, en l'absence de bulletins de santé, ce qu'on peut dire se base uniquement sur les images diffusées et sur ce qui filtre des audiences qu'il accorde. On sait que le président peut difficilement tenir une longue conversation, il est physiquement aussi toujours très diminué, et c'est sans doute pour cela qu'il n'a pas pu mener lui-même de campagne électorale. Son apparition annoncée au dernier meeting organisé par son staff n'a d'ailleurs jamais eu lieu. La rééducation qu'il suit semble cependant avoir des effets positifs. On l'a vu dernièrement se lever devant John Kerry, le secrétaire d'État américain, et c'était la première fois.
Abdelaziz Bouteflika, on l'a vu, vient d'être réélu. Et au vu de son état de santé, cette question, comment va-t-il gouverner ?
Écoutez, c'est la question cruciale. Beaucoup d'Algériens ne se demandent en fait plus comment il va pouvoir tenir encore 5 ans au pouvoir, mais qui va gouverner à sa place ? À qui va-t-il déléguer une partie de ses prérogatives ? C'est vraiment ça la question aujourd'hui. L'homme, on le sait, n'a présidé que 2 conseils des ministres depuis 1 an et ne sort plus de la résidence médicalisée où il vit. Il ne fait plus de discours, mais ne parle que par communiqué écrit. Ce qui est clair, c'est que la question de la succession n'a pas été réglée pendant cette élection. Sous quelle forme se fera-t-elle ? Peut-être par une transition qui pourrait être exercée par un vice-président. C'est une des hypothèses envisagées. Toute la complexité sera de trouver quelqu'un qui incarnera la continuité et qui ne menacera pas les intérêts de ceux qui sont au pouvoir encore et qui pourraient craindre, par exemple, d'être poursuivis dans des affaires de corruption.
Alors Marie-Pierre, à quoi va ressembler le 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika ?
Les mois qui viennent et les années s'annoncent en tout cas plein d'incertitudes, car le pouvoir va devoir, coûte que coûte, lancer des réformes qui sont indispensables pour apaiser la contestation sociale et relancer l'économie. Il va devoir, on l'a dit, trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika, ce qui annonce certainement des tiraillements, car le système qui tient le pouvoir, et notamment l'armée, n'est pas un bloc homogène. Des arbitrages devront se faire nécessairement entre les partisans du statu quo, la jeune garde plus moderne au sein même du système, et c'est tout l'enjeu des mois à venir. Ali Benflis, le grand perdant de ce scrutin, lui, n'a aucun doute. Le régime qui vient d'être reconduit, dit-il, est un régime finissant, croulant et fatigué qui va finir par tomber, ajoute-t-il. La question, c'est maintenant quand et comment.
Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter sur RFI.fr. Marie-Pierre Olfan, merci beaucoup. Bonne journée.